L'île au peuplier, un feuilleton radiophonique avec un promeneur, un philosophe, une torche, une question perdue, une nuit, une balade, deux époques, un temps à contre-temps, mais surtout, et c'est important, aucune réponse toute faite. L'île au peuplier, résumé de l'épisode 7. Après être passé par l'étang au crapaud, Julien et Jean-Jacques Rousseau arrivent à la cabane où le philosophe aimait à venir s'installer aux abords de l'étang du désert. Une intimité renaît avec le lieu. Un souvenir remonte, moins trouble, plus vivant, proche de l'homme et non du philosophe. Épisode 8, la cahute du charbonnier. Ils reprirent la route. L'aube était proche. Jean-Jacques Rousseau semblait soulagé de quelques poids. Pour Julien, au contraire, les valises commençaient à peser. « Nous allons prendre par la roche Saint-Joseph, puis par l'Orme Heureux. De là, nous rejoindrons la cahute du charbonnier. Et bien que cette fabrique ait disparu, Julien, elle aussi, il me semble que chaque pierre, chaque végétaux, soit encore présent en moi. » Je me sens tel un herbier oublié sur l'étagère du temps. Un herbier dont les souvenirs repoussent. Et vous, Julien, comment vous sentez-vous? La lune éclaire-t-elle mes propos? Mis à part le fait que je n'avais pas prévu de passer la nuit entre deux âges, deux mondes, deux natures et un philosophe fantôme, pour seul compagnon de promenade, mon estomac tient le coup. Tiens, en parlant d'estomac, j'ai là dans le fond de mon sac une petite barre énergétique dont seule l'industrie agroalimentaire de mon temps a le secret. Faites donc, mon ami, ne vous privez pas pour moi, je n'ai pas d'appétit en ce moment. Tiens, posons-nous là sur la roche Saint-Joseph, qui, bien que disparue, nous apparaît cette nuit. Plus rien ne m'étonne, alors autant becter mon Mars. Ah, manger Mars en regardant la lune, monsieur Julien a de grands appétits. Ouais, vous emballez pas. Une fois la chose déballée, vous constaterez que il ne s'agit ici que d'une bouchée, une miette de diabète. Comme il disait dans la publicité, un Mars et ça repart. Esprit moderne que le vôtre, qui cerne le problème et le solutionne en problème. Foutez la paix deux secondes à mon pauvre crâne et laissez-moi croquer dans le consumérisme de mon temps. Merci pour lui. La formule est plaisante, bien qu'elle fasse peur. Il y a en vous un philosophe qui sommeille, mon petit Julien. Alors chut, ne le réveillez pas. Mangez, Julien, mangez. Rien ici cette nuit ne saurait vous en vouloir. Quelques instants plus tard. Alors, et cet orme heureux, il est où? Et pourquoi ne nous apparaît-il pas, lui? Comme la roche. Je n'en ai aucune idée, Julien. On dirait bien que certaines choses se connectent et d'autres pas. Un peu comme sur votre réseau, là. Comment l'appelez-vous déjà? Internet. Ah oui, Internet. Le mycélium du 21e siècle. Mycélium. C'est un réseau qui relie par d'immenses plaques les champignons et les arbres entre eux. Depuis fort longtemps, la planète communique, avec sa nature profonde, elle aussi. Rien de ce que fait l'homme ne lui est étranger. De pâles copistes, voilà ce que nous sommes. Corrigez la copie autant que vous voulez, en attendant, l'orme heureux n'est pas là, lui. Qu'il repose en paix, Julien. Tenez, avançons car je me rappelle avec plus d'exactitude où se trouvait la cahute du charbonnier. Visage noir, cheminée fumante, j'aimais à passer devant pour y voler quelques odeurs. Connaissez-vous, Julien, l'odeur de la cahute du charbonnier? Mais bien sûr, monsieur Jean-Jacques, presque autant que celle du fumeur de hareng ou que celle du grilleur de marron. Je suis né dans l'odeur du bitume et du McDonald's, moi. Même mon pif est industriel. Je ne fais plus la différence entre un bout de latex et une salade de la grande distribution. Mais pour ce qui est de vous trouver des truffes, alors là oui, je suis champion. Vous en avez une devant vous. C'est moi ou je ressens de la colère en vous? Une colère collective, dirait-on. Avez-vous tant perdu? Que chercher vous est devenu insupportable en ce siècle? C'est pas ça, Jean-Jacques, c'est pas ça. Mais cette nuit, vous pouvez pas comprendre. C'est un peu comme si je retrouvais un sens à mes sens. Je sais pas comment vous dire, moi. C'est comme un arrêt sur image. Comme regarder un film avec le début et la fin en même temps. Ça peut foutre le vertige, hein. Je vois. Le cinématographe ou la machine à remonter le temps. Mais rassurez-vous, Julien, il n'y a pas de pauvre ou de riche époque. Il n'y a que ce que nous en faisons. Le reste n'est que mauvaise littérature, tristes impressions. Ce que nous apprenons se trouve dans les livres ou sur vos écrans. Ce que nous savons est à l'intérieur, dans notre livre intérieur. Écoutez votre cœur, Julien. N'échouons-nous pas entre l'ancien et le nouveau ? Ne sommes-nous pas les esclaves de nos désirs la plupart du temps ? Pourtant, Julien, nous sommes des libres, libres de vivre. Notre nature est liée à la nature. La pesanteur est notre racine sur cette terre. Eh bien justement, Jean-Jacques, la nature, on n'arrête pas de nous en parler. Ils nous la vendent en paquet de 10. On vote pour des politiciens qui disent vouloir la protéger. Le développement durable, qu'ils appellent ça. On nous parle de modes de production, de transformation biologique, de biodiversité, quand tant d'espèces sont menacées, sans que l'on soit foutu de comprendre que notre propre espèce l'est également. Tout est commerce, Jean-Jacques, tout. Si l'homme a un bon fond, c'est un bon fond de commerce. La voilà la vérité. Vous m'en direz tant. Mais vous êtes-vous seulement posé la question suivante. De quoi a-t-elle peur, l'humanité ? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi ? Eh bien, je vais vous confier un secret, Julien. L'humanité a peur de la nature. Elle pourrait changer la donne, renverser la vapeur, remettre les pendules à l'heure, tout comme elle l'a déjà fait par le passé, et ainsi sonner le glas de l'hallali humaine. C'est le message du cerf, de l'oiseau, du crapaud, ainsi que de tant d'autres. Il n'y a que l'oreille humaine pour rester sourd à ce langage. Mais comme ils disent, la peur n'évite pas le danger, et pour cause. Bah alors quoi, monsieur le philosophe ? On rentre dans l'art de la bêtise humaine ? Une chose est sûre, Julien. Les êtres humains devront à nouveau faire alliance avec elle. Renégocier leur contrat social, en quelque sorte. Enlever quelques barreaux à leur échelle. Monter haut n'est pas toujours significatif de voir loin. Cela peut aussi être tomber de haut. L'humanité a laissé le choix de son avenir seulement à une poignée d'entre nous. Elle a abandonné ses pouvoirs collectifs. Elle devra à nouveau faire corps, être un ensemble, si elle veut sortir, s'en sortir, et vivre. J'ai lu quelque part, Jean-Jacques, que vous étiez un peu à l'origine de la Révolution française. Napoléon lui-même, regardant votre tombeau, lors d'une promenade dans ce parc, avec Stanislas, le fils de René Girardin, aurait eu ces mots. Attendez. Je vais vous lire ça, j'ai le papelard dans ma poche. Il aurait mieux valu pour le repos de la France que cet homme n'eût jamais existé. Et pourquoi, citoyen consul ? C'est lui qui a préparé la Révolution française. Je croyais, citoyen consul, que ce n'était pas à vous plaindre de la Révolution. Eh bien, l'avenir apprendra s'il n'eût pas mieux valu pour le repos de la terre que ni Rousseau ni moi n'ayons existé. Et il reprit d'un air rêveur sa promenade. Vous en dites quoi, Jean-Jacques ? Triste sire, triste empereur. Il aurait surtout mieux valu qu'il ne se promène que seul, celui-là, au lieu que d'être accompagné par des milliers d'hommes, à son service, les entraînant dans la fosse commune des siècles et des siècles. La raison chez vous est comme un tsunami, elle emporte tout. La nuit aussi a déjà presque tout emporté. Alors, avançons, qu'en dites-vous ? J'en dis que nos idées sont aussi noires que le charbon de bois produit par cette cahute. Avançons donc, Julien, vers le dénouement de cette histoire. Si dénouement il y a, n'avez-vous pas un Mars pour moi ? Autant me demander la Lune. Votre esprit s'ouvre, Julien. Il s'ouvre comme la fleur à l'approche de l'astre solaire. Les voici donc tous deux cheminant vers leur point de départ. Point à plusieurs départs, en vérité. 237 années à hanter les lieux tous les 4 juillet, de la lueur d'une torche à la lueur de l'aube. Inlassablement, sans trêve, comme une journée qui recommencerait dans un monde qui vieillit, se meurt, en chanson et en guerre. Empilage de vie, étalage d'espoir, la conscience en berne, l'humanité est en manque de partage. Le partage, cette drogue utile à l'existence. Pourtant, cette nuit du 4 juillet 2015, deux artisans essaient d'en recoller les morceaux, de trouver un sens au merdier, de construire une échelle, pas pour aller plus haut, mais pour sortir de la fosse et éventuellement retrouver une question. Mais tout cela aurait-il la moindre importance ? Ça va, Jean-Jacques ? Vous m'avez l'air songeur. Il y a bien longtemps, j'avais écrit « J'approche du terme de la vie et je n'ai fait aucun bien sur cette terre. J'ai les intentions bonnes, mais il n'est pas toujours facile de bien faire qu'on pense. Je conçois un nouveau genre de service à rendre aux hommes. C'est de leur offrir l'image fidèle de l'un d'entre eux afin qu'ils apprennent à se connaître. » L'île aux peupliers.
Feuilleton autour de Jean-Jacques Rousseau et du parc d'Ermenonville.
Un feuilleton écrit par Gontran Bodequin. Montage Frédéric Gis.
Diffusé du 6 au 17 avril, du lundi au vendredi à 9h. Rediffusion et podcast sur notre site www.radio-valois-mulcien.fr.